Il est vraiment passionnant et il est surprenant parce qu'il nous donne non pas simplement à réfléchir sur les victoires, mais aussi sur les défaites. Et j'ai intitulé le titre de cette méditation « Analyse d'une défaite ». Analyse d'une défaite. Je vous rappelle, la dernière fois, nous avions vu comment Jéricho a été prise, voilà. Elle a été prise, Jéricho. Elle est tombée, vous vous souvenez, hein, les murailles, comment elles sont tombées. Et on s'attend à une série de victoires successives. Ben, le chapitre 7, ben, analyse d'une défaite. On va voir ça ensemble. On le lit. Amen. Voici ce qui nous est dit. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, c'est-à-dire consacrées à Dieu. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Et il leur dit, « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. » Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le peuple, le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ?» L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis ? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont... sous l'interdit, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus et là, tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin. Il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée, il fit appeler les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée, il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zabdi fut désigné, il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Quand répondit à Josué, et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué, à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida, on éleva sur Acan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Acor. Et l'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Voici, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Amen. Et vous avez remarqué qu'après que cette affaire eut été réglée, eh bien le plan de Dieu, la dynamique de victoire reprend. Alléluia, parce que le Seigneur ne veut pas nous donner une vie de défaite, mais une vie de victoire. Alléluia. Amen. Donc, ici, nous sommes face à une défaite et je vous ai parlé voilà, de l'analyse d'une défaite. Il faut analyser les choses parce que rien ne vient par hasard et vous avez vu ici eh bien, comment la défaite militaire a une cause spirituelle. Et même si nous, on n'est pas en guerre comme au temps de Josué, néanmoins, nos normes sont spirituelles. On obéit aux règles du royaume de Dieu. Alléluia. Et comme l'Écriture le dira, on ne peut pas servir deux maîtres. Ou on aimera l'un, on haïra l'autre. Ou on servira l'un, on haïra l'autre. Vous ne pouvez pas avoir Dieu et maman pour maître. Ce n'est pas possible. Et ici, nous voyons un homme dont le cœur était partagé un moment et qui a péché et qui a fait entrer un peuple tout entier dans une phase extraordinairement compliquée. Je voudrais dire quand même que nous devons faire attention à ne pas non plus tomber suite à ce texte dans une explication trop facile en disant eh bien, si quelqu'un parmi nous se trouverait dans un état, une situation particulière, il entraînerait tout le peuple de Dieu dans une défaite. Je voudrais quand même préciser que nous sommes dans le cadre d'une alliance ici d'Israël eh bien, avec Dieu. Même si, on va le voir quand même, eh bien, si dans l'Église on tolérait sciemment des situations de péché, Dieu ne pourrait pas bénir, mais ce n'est pas parce que l'un d'entre nous cacherait quelque chose que l'ensemble eh bien, serait eh bien, sanctionné. Dieu est saint, alléluia, mais nous sommes là dans une alliance eh bien, qui est entre Dieu et Israël. Alors je vous rappelle tout simplement que nous venons de vivre, avant le chapitre 7, au chapitre 6, eh bien, une victoire extraordinaire, merveilleuse, une des plus belles pages de la Bible, où les murailles de Jéricho eh bien, tombent au son de la trompette et des cris eh bien, de joie et de victoire eh bien, du peuple de Dieu. Le verrou qui bloquait l'entrée du peuple de Dieu dans le pays des promesses tombe. Alléluia, merci Seigneur, Satan est vaincu, amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et on a vu la dernière fois comment le Seigneur veut nous faire sortir également de nos Jéricho, des situations bloquées, des situations eh bien, où nous sentons comme prisonniers, comme oppressés. Ça nous enferme, ça nous empêche de vivre eh bien, ce que Dieu a prévu pour nous. Mais Jésus est vainqueur. Alléluia. Vous avez remarqué comment eh bien, ce peuple a persévéré pendant 7 jours et le 7e jour, 7 fois, ils ont tourné autour de la ville. Ça nous engage eh bien, à persévérer, à aller jusqu'au bout. Tant que Seigneur, tu n'as pas répondu, je combattrai. Alléluia. Et nous avons compris que le combat de la foi eh bien, s'impose pour celui, pour celle qui veut eh bien, voir les promesses de Dieu. Alléluia. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et nous, on a besoin de croire et d'aller de l'avant. Certainement, plusieurs au milieu de nous voient un enfant peut-être prisonnier dans son Jéricho, une dépression, tu pries pour le salut de tes enfants ou d'un conjoint, d'une conjointe. Mais ne te décourage pas, Jésus est vainqueur. Alléluia. Sois eh bien, dans l'armée de l'Éternel comme un vaillant héros. Le Seigneur veut te bénir. Amen. Mais ici, eh bien, nous voyons que ce n'est pas parce qu'on a gagné une fois qu'on va gagner une deuxième fois. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en ce qui me concerne, je trouve ce qui me surprend dans ce texte, c'est l'amateurisme qu'il y a dans, parmi le peuple d'Israël lorsqu'on considère le degré de préparation qu'ils avaient eu auparavant. Souvenez-vous, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais avant qu'ils entrent dans la bataille, avant qu'ils fassent le tour de Jéricho, il y a eu beaucoup de préparation. Ils ont été circoncis, ils sont passés par le Jourdain, et Dieu a fait tout un travail, on va y revenir. Et là, alors qu'ils avaient été immensément préparés, voici, on a gagné, allez voir la ville d'Aï qui est à côté, il faut la prendre aussi. Voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, ouais, non, c'est bien, il ne faut pas déranger tout. Enfin, je veux dire, personne ne prie. Personne ne fait l'analyse de la situation, personne ne cherche la face de l'Éternel, on n'est pas en train d'avoir une attitude spirituelle, mais on est dans une espèce d'euphorie, vous voyez, dans un espèce d'enthousiasme. Alors je veux le comprendre, hein, y a pas de souci, mais on n'essaye même pas de comprendre si quand même à minima les vies et les cœurs sont en phase avec la volonté du Seigneur, ce qui nous prouve quand même une chose, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'on peut voir de grandes choses et des miracles que Dieu est forcément d'accord avec nous. Vous voyez ? Je me souviens d'un pasteur qui me disait, lorsque je commençais le service de Dieu, ça m'avait surpris. Il disait, tu sais, Emmanuel, ce n'est pas parce qu'il y a des miracles que c'est forcément un signe de grande spiritualité. Je lui ai dit, quand même, c'est bien. Non, il m'a dit, regarde dans les Écritures. Quand les disciples sont dans la tempête, ils réveillent le Seigneur, ils crient, et Jésus leur dit, mais homme de peu de foi, pourquoi avez-vous, où est votre homme de peu de foi, etc. Et ils se posent toutes sortes de questions, mais qui c'est en fait celui-ci qui calme même le vent et la mer? Et on s'aperçoit que oui, le Seigneur vient à leur aide, il calme le vent, il calme la mer, mais il leur fait leur reproche de leur peu de foi. Et là, j'étais un petit peu interloqué. Et c'est vrai que dans la série des tempêtes, lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit que l'homme qui a le plus de foi, un des disciples, l'apôtre qui a le plus de foi, c'est celui qui voit aucune tempête calmée. C'est l'apôtre Paul. Lorsque vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, il traverse lui aussi une tempête. Il reçoit la parole que le bateau doit échouer. Voilà, le bateau va se briser. Il doit échouer sur une île, etc. Que tout le monde va être sain et sauf. Et lui, et Dieu ne lui parle pas à aucun moment. Il ne lui parle de calmer la tempête ou que ça va, ça, tu vas avoir un temps de répit, tu vas voir ça va aller. Non, il va dire ça va pas aller mieux, ça va aller mal en pied, le bateau va se casser. Mais quand même, je vais te faire une promesse, vous serez tous sains et saufs. Ben, je veux dire, il faut vraiment avoir le cœur accroché. Alléluia, amen, amen. Hein, Jean, si tu te trouves sur un bateau à Palavas pendant la tempête qui se brise, le Seigneur il te dit t'inquiète pas, c'est qu'un bateau. Eh oui. Donc. Nous voulons le comprendre, mais cette défaite, mes frères et sœurs, elle pose quand même question, parce que le but de Dieu, c'est de nous faire entrer dans ses promesses. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Romains 8 nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Luc 10 nous dit qu'il nous a donné, le Seigneur, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et ici, nous voyons qu'il y a quelque chose qui doit nous surprendre. Ce n'est pas le peuple de Dieu qui est le plus fort, ce sont ses ennemis. Et ça, ce n'est pas normal. On va y revenir tout à l'heure, parce que ça, c'est quelque chose qui ne passe pas pour Josué. Josué, c'est un homme de guerre. Il a vu la gloire du Seigneur et que lui, il soit dans la défaite. Alors que lui, il soit encore dans la défaite. Bon, peut-être qu'il y a... Mais que nous, on est le peuple de Dieu, Seigneur. Il se passe que ce n'est pas possible. Je voudrais faire quand même une petite mise en garde par rapport à certaines choses. Pour vous dire, mes frères et sœurs, que ce n'est pas parce que l'on souffre qu'on est forcément dans la défaite. Une petite parenthèse. Être persécuté, la persécution, ce n'est pas la défaite. La tentation... Ce n'est pas la défaite, c'est succomber à la tentation. Même la mort n'est pas une défaite. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Voyez. Donc, je voudrais que nous puissions bien le comprendre, mais revenir quand même aussi au modèle parfait qui est Jésus, il n'a jamais été trouvé dans la défaite. Et même ce qui a été apparemment vécu par certains comme une défaite, il a été crucifié entre deux brigands, c'est la victoire. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, il nous a rachetés. Alléluia. Et la preuve, il est ressuscité d'entre les morts. À lui soit la gloire. Alléluia. Donc, on comprend que, bien sûr, nous voulons bien comprendre que la persécution n'est pas une défaite, la tentation, la souffrance quand on marche avec le Seigneur n'est pas une défaite, mais lorsque cette défaite se rencontre face au péché, face à la chair, face à certaines choses qui peuvent être là, pas quelque chose de normal. Des défaites dans le Nouveau Testament, il y en a également. Je pense à Pierre qui renie le Seigneur. C'est une défaite quand même, oui ou non? C'est une défaite. On connaît la cause. Tandis qu'il devait prier dans le jardin de Gethsémané, il s'est endormi. Il y a une autre défaite de disciples. Dans Marc 9, vous le lirez, lorsque un papa amène son garçon possédé aux disciples, ils n'ont pas la puissance pour guérir, pour libérer cet enfant de son emprise démoniaque. Heureusement, Jésus va intervenir. Mais là, il y a une défaite apparemment. À Nazareth, à cause de l'incrédulité. Les gens ne croient pas parce qu'ils sont incrédules, ils croient tout comprendre au sujet de Jésus. Bon, bref, nous voyons qu'il y a à chaque fois des défaites, mais toutes ces choses eh bien, sont relevées lorsque Jésus intervient. Alors, il faut comprendre pourquoi, et Josué, et c'est mon deuxième point, va tâcher de comprendre, mais comment ça c'est qu'on en est arrivé là. Et il cherche les causes. Parce que rien n'arrive par hasard. Et lui, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand il entend ça, il ne dit pas « Oh, c'est pas grave. » Des fois, on gagne, des fois, on perd. Ça arrive. Vous voyez ? Et si vous supportez l'OM, bon, ben, vous perdez souvent. Mais bon, on va dire, voilà. Mais non, lui, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça se passe. Quand on marche avec le Seigneur, c'est pas comme ça que ça doit se passer. On peut être persécuté, on peut être dans les larmes, mais on est toujours vainqueur. Je parle ça à notre frère Gérard. Plaise au Seigneur que le Seigneur le garde encore au milieu de nous le temps qu'il lui plaira, mais nous savons qu'il est plus près du départ que plusieurs. Mais c'est quand même une victoire. Parce qu'il va auprès de son Seigneur. Alléluia. Il a fait de Jésus. Et même si c'est compliqué, c'est quand même une victoire. Alléluia. Amen. Et on veut bénir. Et mais lui, eh bien, il s'humilie et il veut comprendre eh bien, ce qui se passe. Et dimanche dernier, nous avions parlé que Jésus est la pierre angulaire. Nous avions parlé que la pierre détermine un plan. Voilà, c'est des fondations qui déterminent l'ensemble de la structure de la maison. Nous aussi, nous sommes dans un plan. Et nous devons eh bien, être de celles et ceux qui entrent dans la victoire du Seigneur. Et Dieu va se révéler. Parce que c'est important de s'humilier. Important de s'humilier. C'est important d'accepter la réalité. Si on gagne, on dit gloire à Dieu. Si on perd, on dit Seigneur, mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis de ceux qui ont été amené au salut parce qu'il y a des gens dans l'église et dans ma famille qui ont pleuré, qui n'ont pas accepté cette défaite. J'étais loin du Seigneur alors que j'avais grandi dans l'église et je faisais les 400 coups, je détruisais ma vie et il y a des gens qui pleuraient. Il y a des gens qui pleuraient et qui n'acceptaient pas. Seigneur, c'est pas possible. Et mes frères et sœurs, on n'aime pas parler de défaite. Pourquoi on en est arrivé là? Mais si on veut sortir, parce qu'un de mes points là, ça sera de sortir de la défaite, il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là. Vous voyez, c'est comme un diagnostic. Et Dieu, le Seigneur, va intervenir. Et au lieu de laisser son serviteur dans l'abattement, dans la désolation, il dit lève-toi, lève-toi. Voilà, je vais te montrer ce qui se passe et je vais te faire... Il y a un pragmatisme divin, il y a un pragmatisme divin. Voilà ce qui se passe, mais il y a toujours le moyen d'en sortir. Voilà. J'ai compris que tu as compris que vous étiez dans une défaite, que vous ne compreniez... Et Josué 7, 12, pour moi, est la clé un petit peu du récit. Il nous est dit, les enfants d'Israël ne peuvent résister à leurs ennemis, ils leur tourneront le dos... Voilà, ils tourneront, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alors tout d'abord, la chose qui nous est dite, c'est que le Seigneur est en train de le dire, je ne suis plus avec vous. Et vous savez que dans toute l'histoire d'Israël, pourquoi ce peuple est vainqueur sur ses ennemis qui sont plus nombreux ? Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, ce n'est pas parce que c'est des grands stratèges, ce n'est pas parce que je ne sais pas quoi, c'est parce que Dieu est avec eux. C'est tout. C'est Dieu est avec eux. Et là, le Seigneur est en train de leur dire, mais vous n'êtes plus dans l'alliance. Il y a une chose qui s'est produite, eh bien, qui fait en sorte que eh bien, vous êtes sortis de l'alliance. Il est en train de parler de sanctification. Sanctification. Sanctifiez-vous. Qu'est-ce que c'est la sanctification ? C'est la marche normale d'un enfant de Dieu avec son Seigneur. C'est une vie qui est différente eh bien, de la vie que mènent les hommes et les femmes eh bien, de notre temps et sur cette terre. C'est une vie eh bien, qui est mise à part. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, avant que le peuple entre dans le pays promis, Dieu a éduqué son peuple. Je vous l'ai dit, la première bataille dans le livre de Josué, c'est au chapitre 6. Avant, il y a 5 chapitres, je sais bien compter. Voilà. Mais dans tous ces chapitres, eh bien, vous voyez que Dieu prépare, fortifie-toi et prends courage. Reste dans la foi et dans l'obéissance à ma parole. Chapitre 2, comprends bien que c'est, tu dois rester dans le domaine de la grâce. Pourquoi ? Parce que même une prostituée peut rentrer dans le pays promis si elle s'attache à moi et si elle fait appel à ma grâce. Donc, ce n'est pas parce que tu es le meilleur. Je te fais des promesses, attache-y-toi, c'est par la grâce. Et puis ensuite, dépouillement, tu passes eh bien, le pays, tu passes le Jourdain, tu laisses ton passé derrière toi, tu es mort à ce passé, ce monde est mort à toi. Et puis, tu es mort également au péché. Je fais de toi quelqu'un de nouveau. Un nouvel autel va être bâti de l'autre côté eh bien, de la rive du Jourdain. Et puis ensuite, eh bien, ta chair même, elle est crucifiée. C'est la circoncision. Ce n'est plus toi qui vis, c'est moi, dit le Seigneur, qui vit en toi. Et on voit que toutes ces choses eh bien, ont été pensées, ont été élaborées de la part du Seigneur pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui sont mis à part par le Seigneur, des hommes et des femmes que le Saint-Esprit va pouvoir utiliser, que le péché eh bien, n'attristera pas, des hommes et des femmes qui ont des positions par rapport à leurs pensées. Ils ne s'appuient pas sur comme Abraham par rapport à Agar et à Ismaël, sur des plans élaborés, etc. Non, ils sont dans la foi, alléluia. Et il y a une meurtrissure, ils se chargent de la croix et peut-être que quelqu'un au milieu de nous a-t-il besoin de faire l'expérience que ce n'est pas tes projets, ce n'est pas ta bonne volonté eh bien, qui va te sortir de tes détresses, mais c'est en obéissant au plan de Dieu. Dieu veut le meilleur pour ta vie, mais pourquoi est-ce que tu ne le laisses pas régner ? Dieu veut le meilleur pour ta vie. L'Écriture nous dit que le Seigneur veut nous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Mais il y a une condition. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Et ici, eh bien, nous voyons eh bien, que ce peuple qui avait été extrêmement bien préparé eh bien, se lance eh bien, dans une nouvelle bataille, eh bien, sans cette préparation. S'il l'avait fait, il se serait rendu compte. Il y a des choses qui ne vont pas. Je suis sûr que le Seigneur leur aurait révélé. Le Seigneur leur aurait dit, regarde, il y a là, à tel niveau, il s'est passé quelque chose. Alors, cette défaite, je le répète, c'est mon troisième point, c'est une défaite spirituelle. Ce n'est pas un problème de stratégie. C'est un problème eh bien, qui est d'ordre spirituel. Et le but maintenant, entre guillemets, de la manœuvre, ça va être de se séparer. De se séparer, ça va faire mal. Hein. Ça va me faire très mal. Hein. Mais ça va être de se séparer de ce qui a amené la défaite. Il n'y a rien d'autre. Ouais. Je voudrais vous rappeler ce que c'est que Jéricho. Jéricho, c'est la puissance qui s'oppose au plan de Dieu. Spirituellement, c'est une forteresse, c'est s'il y a quelque chose de diabolique qui veut s'opposer à ce que des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ puissent entrer dans ce que Dieu a prévu. Et l'Écriture nous montre que tout sera détruit, et puis les richesses, les trésors seront consacrés à l'Éternel, seront consacrés à Dieu. Et comme pour dire, mais je ne veux qu'aucun d'entre vous ne soit enrichi par ce que Jéricho est capable de donner. Et même les trésors seront pour l'Éternel, ça sera sanctifié et mis à part pour le trésor de l'Éternel. Et là, nous voyons qu'il y a quelque chose qui va agir dans le cœur d'Akan. Akan, dont le nom signifie trouble, accord, Akan, tout ça, dans l'hébreu, ce sont des choses qui se ressemblent. Et ils vont faire quelque chose d'une extrême gravité, c'est-à-dire qu'ils vont prendre de ce qui revient à Dieu, ils vont se l'attribuer, ils vont le prendre pour eux, en tirer un bénéfice personnel, alors que cette victoire doit glorifier le Seigneur, alors que c'est Dieu qui a remporté cette victoire, mais comme ils en prennent un bénéfice personnel, mais également, il me semble que cette attitude, elle est gravissime et incompatible avec la présence du Seigneur, parce qu'elle exprime une chose, c'est que je peux prendre quelque chose de Jéricho. Je peux, ce que Jéricho peut me donner, c'est pas si mal dans le fond. Je peux le prendre, pour moi également. C'est comme si, quelqu'un qui avait rencontré le Seigneur entretenait, une relation, excusez-moi le terme, vraiment excusez-moi, mais dans la relation d'amour avec le Seigneur, comme une espèce de forme d'adultère. Je veux te suivre, Seigneur, mais j'aime encore ce monde. Et je te suis, Seigneur, mais il y a encore des trucs là qui sont cachés, qui sont... il y a... Et obligatoirement, ces choses doivent disparaître. Lorsque on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que la discipline divine, elle existe quand même. Elle existe. J'ai connu... nous avons connu des frères, des sœurs dans l'Église qui ont rencontré parfois des situations dans leur vie, un petit accident, un petit truc qui les a un petit peu arrêtés dans leur folie. Et ils ont compris, eux, ils le comprenaient entre Dieu. Dieu m'a arrêté là, pour pas que j'aille plus loin. Dans une amitié, il a mis fin, il a rompu quelque chose. Vous voyez, et c'était un avertissement de la part du Seigneur. Je me souviens dans une église que j'ai bien connue, comment Dieu a donné sa chance à quelqu'un, un chrétien qui était là dans l'église. Un drôle de chrétien, il connaissait Dieu, mais enfin quand même, il avait une double vie. Il avait sa femme dans l'église et il en avait une autre ailleurs. Et un don spirituel lui dit, tu es comme Samson. Personne ne savait rien. Tu es comme Samson. Tu dis, cette fois encore, je m'en sortirai. Mais tu t'en sortiras pas, à moins que tu te repentes. C'était précis, hein ? Silence de cathédrale dans l'église. Voilà, même si ce n'était pas une cathédrale, hein. 15 jours plus tard, tout était révélé. Il y a eu vraiment une forme de scandale qui est arrivé, mais voilà les choses. Pourquoi ? Parce que cet homme avait endurci son cœur par rapport aux choses de Dieu. Et hélas, il a tout perdu. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous dire ceci, c'est que le message de la croix, il est beau, il est merveilleux, mais il est extrêmement sévère. C'est un message... La croix, c'est une puissance de séparation. Séparée du monde, séparée du péché, séparée du diable, séparée de la chair. Je dis même séparée du diable. Et parfois, je me rends compte que certains frères et sœurs, je l'ai vu, qui avaient goûté à de l'occultisme, vous avez vu, c'est caché là. Ce qui est caché, c'est occultisme. Lentement, progressivement, le diable est là le temps. À la fin de leur jour... sont revenus à des pratiques Terrible, hein ? Puissance de séparation pour qu'il y ait une union avec le Seigneur, avec sa grâce, avec sa victoire, avec son esprit, alléluia. Et mes frères et sœurs, le seul moyen de sortir de la défaite, c'est de se séparer de ce qui est inadmissible au milieu du peuple de Dieu. Et ici, ce qui est quand même frappant, c'est le compromis qui est entré chez Achan, et c'est ce qui va troubler. Je vous ai dit tout à l'heure, le mot Achan, cela signifie troubler. Et en préparant ces moments, j'ai trouvé des situations. Alors là, il faut que je retrouve. Seigneur, aide-moi dans mes notes. Alléluia. Des situations qui ont mené du trouble. Merci Seigneur. Du trouble au milieu du peuple de Dieu. Il y a des situations qui parfois sont troublantes. Paul dira aux Galates, au chapitre 1er, verset 7, il y a parmi vous des gens qui vous troublent. Des gens qui disent que être sauvé par la foi en Jésus, ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter d'autres choses. Il vous trouble. Mais je croyais que Jésus avait tout accompli. Non, il faut que tu te fasses circoncire. Il faut que tu accomplisses la loi. Il faut que tu fasses le sabbat. Il faut que tu arrêtes de manger du porc, etc. Et les gens, ils sont... Et tout cela, c'était faux. On a aussi des gens qui sont capables de troubler parce qu'ils utilisaient, et 1 Pierre chapitre 2, verset 16, la liberté des enfants de Dieu pour cacher la méchanceté. Eux, ils disaient, oui, mais Dieu nous rend libres, alors... T'es capable de faire tout et n'importe quoi, et des choses que Dieu ne permettait pas. Et puis, utiliser également pour leur propre gloire le message de l'Évangile, des choses qui troublent, et même au niveau de la raison, utiliser même le mensonge, vous le lirez, Romains chapitre 3, verset 7, pour que Dieu soit glorifié. Ici, il y a quelque chose qui va troubler le peuple. Comment toi qui étais avec nous ? Comment toi qui... voilà. Eh bien, tu t'es laissé corrompre comme ça. Mais c'est contraire, c'est complètement à l'opposé du message de la croix. Et mes frères et sœurs, je ne dis pas cela du tout pour nous faire peur, mais je crois que dans le cœur d'Achan, il y avait vraiment quelque chose qui s'était installé, une mentalité. Parce que lorsqu'on lit attentivement l'Écriture, et je sais que vous le faites, on voit qu'il y a des gens qui sont tombés. Je pense à le cas par excellence, le cas de David. Vous vous souvenez ? L'histoire de David et Bathsheba. Mais dès l'instant où il est révélé, il se repent immédiatement. Ce n'est pas un homme on sent qu'Achan, il essaie de se justifier. Oui, j'ai convoité. Pour lui, on ne sent pas le degré de gravité. C'est complètement différent lorsque David dit « Mais j'ai péché contre l'Éternel ». On sent un homme qui dès qu'il est repris, et chers frères et sœurs, que nous soyons, et c'est, je vais terminer, de ces hommes et de ces femmes qui, pour sortir de la défaite, remettent tout en entier leur vie sur l'autel. Vous savez qu'on vit des temps de séduction, ça a été dit tant et plus par notre frère Jean-Michel Lozano, gloire à Dieu, mais on vit une époque quand même qui... et surtout pour des jeunes générations. Je me souviens, je suis moins jeune, si je suis jeune encore, hein, Patrick, alléluia. Mais je me souviens, ça m'avait choqué ça, à l'époque, Madonna, vous souvenez, les jeunes, vous connaissez pas Madonna, hein, qui se baladait avec une croix en or, là, on disait, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'était bizarre, quoi. Hein. Elle est chrétienne, Madonna. Britney Spears qui dit « Je suis une bonne chrétienne ». Dis donc, c'est bizarre pour une chrétienne de chanter ce que tu chantes. Hein, voilà. Et ton ordre, etc. Johnny, on se dit « Mais ils sont chrétiens ?» Et ça trouble. Parce que c'est un message spirituel corrompu. Et je voudrais te dire ceci. Et peut-être à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Tu es peut-être malheureux, malheureuse, parce qu'il y a une défaite qui s'est installée, parce que tu as mis de côté la seule chose qui est capable de te rendre vainqueur, c'est la croix de Christ. La croix qui te sépare du péché, qui te donne la victoire sur le diable. Et si tu reprends ce que Dieu a voulu, ce dont Dieu a voulu te séparer, mais tu vas te retrouver écarté du plan de Dieu. Et tandis que nous sommes en train de parler, je voudrais quand même terminer sur une note positive, en ce sens que dès lors que Achan, que l'interdit est sorti du milieu du peuple de Dieu, le processus normal de victoire au milieu du peuple de Dieu a repris. Amen. Vous avez remarqué qu'ils vont retourner à Haï. Parce que le Seigneur veut que nous triomphons. Le Seigneur veut te donner une vie belle. Il veut que tu te maries, il veut que tu aies des enfants. Il y a un chemin étroit, resserré. Et si on cache... De toute façon, je trouve que on peut cacher aux yeux des hommes, ça, c'est pas un souci. Mais on ne cache pas aux yeux de Dieu. Mais comment on va dire, mais Seigneur, tu vas me bénir, Seigneur, fais des miracles dans ma vie, interviens, etc. Alors qu'il y a un truc là qui est... Enfin, vraiment, il faut être intelligent. Et dire, Seigneur, d'abord, je me repens, je te demande pardon, cette situation, peut-être j'ai besoin de demander pardon, peut-être... Comprenons, nous sommes dans un royaume qui est spirituel. Il y a des principes spirituels, alléluia, amen. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous n'êtes pas fâché après moi ? Bon, merci Seigneur. Alors, l'œuvre de Dieu se remet en marche parce que ce peuple et Josué a accepté de reprendre ce chemin, d'accepter que la croix passe dans leur vie. Et si nous également, dans nos vies, cette croix venait à repasser. Je voudrais lire avec vous, pour terminer, dans 2 Corinthiens, si vous voulez bien, au chapitre 6 et au verset 14. 2 Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 14, voici ce qui nous est dit. 2 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 14. Il nous est dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? On va continuer la lecture. Mais vous avez remarqué comment le Seigneur, il agit avec nous en grand pédagogue ? Il ne fait que poser des questions. Et les réponses, elles ne sont pas données. C'est toi qui dois les donner. Réponds. Voilà, répondons. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre la lumière et les ténèbres ? Eh ben non, il n'y a rien de commun. Tout à l'heure, on en parlait avec une sœur. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Tu peux aimer le ballon rond. Mais Zidane, ce n'est pas ton idole. C'est Jésus, alléluia. Jésus, ce n'est pas une idole. Il est le réel, alléluia, le vrai. Le Dieu vivant est vrai, alléluia. À lui soit la gloire, amen. Je continue. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Il est beau ce passage. Alléluia. C'est clair, c'est limpide, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, peut-être que quelqu'un est concerné. Peut-être que la majorité d'entre nous qui marchons avec le Seigneur, on n'est pas concerné. Mais c'est quand même l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Et on a besoin de l'entendre. Amen. On a besoin de le garder dans notre cœur. Alors, on va prier le Seigneur, si vous voulez bien. Et on va dire, Seigneur, bien, je veux remettre ma vie sur l'autel. Amen. Alléluia. Et Seigneur, une vie entière. Et Seigneur, s'il y avait quelque chose qui était entré, je ne veux pas le cacher. Je veux tout amener à la lumière, Seigneur. Je veux exposer ma vie. Il n'y a rien de secret devant toi.